Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-télévision suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone spéciale Montréal aujourd'hui. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Nous allons animer ensemble cette émission, présentée à deux pour la première fois depuis sa création. Vous êtes
absolument
avec nous.
Absolument. Voilà, et bonjour choisi. Au public de Montréal, le public du Salon, le magnifique public du Salon.
Bonjour Montréal, merci Montréal. D'être avec nous. Vous allez vivre avec nous à distance avec Dany Laferrière de l'Académie française l'ambiance de cette 41e édition du Salon de Montréal. C'est un grand écrivain québécois qui a marqué la littérature et le théâtre francophone de notre époque.
Michel Tremblay. Michel Tremblay publie un livre de confidences. Il se raconte avec pudeur mais franchise et il dévoile des moments parfois très intimes de sa vie. Tout à fait Michel Tremblay.
Bonjour Michel Tremblay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Michel, vous êtes un grand fidèle de la librairie francophone et je vais le dire au public là, il y a peu d'auteurs aussi généreux et respectueux que vous, vous acceptez la librairie francophone quelles que soient les conditions et Dieu sait si on a fait des choses ensemble, hein, c'est vrai,
oui.
On est allé un peu partout.
Je vous ai même fait visiter une gare qui n'était plus une gare.
Oui, qui n'existait pas.
Oui, je cherchais souviens. Les trains puis il n'y en avait pas.
C'est ça. Et aujourd'hui vous avez même déplacé une séance de signature pour vous, merci beaucoup.
Et puis on a aussi Joséphine Bacon, poétesse Inon, qui écrit un livre magnifique, des poèmes très nus et assez bouleversants.
Joséphine Bacon qui est avec nous, que vous pouvez applaudir, elle est en plateau ici aussi. Il sera question d'un formidable bouquin, une encyclopédie très originale, réalisée par Bernard Werber. Nous parlerons des fourmis, bien sûr, mais pas seulement. Bernard Werber, invité d'honneur de ce Salon du Livre, et pour la première fois dans la librairie francophone.
Et puis aussi de la musique avec Tristan Malavoie, qui chantera en duo avec la comédienne Émilie Bibeau, ici sur le plateau de Radio-Canada, au Salon du Livre de Montréal.
La librairie francophone, émission spéciale au Salon du Livre de Montréal, présentée par Emmanuel Queyrade et Dany Laferrière.
Et trois libraires sont avec nous aujourd'hui dans cette émission exceptionnelle. Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles représente la Belgique. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous Déborah?
Tout va très bien.
Bien.
Et puis ça, Laura Sanchez aussi de la librairie du Boulevard à Genève qui représente la Suisse. Bonjour Laura.
Bonjour Dany, bonjour tout le monde.
Bonjour Laura.
C'est rapide.
Ça change, attention. Hein. Déjà qu'il veut prendre ma place, il le dit à tout le monde. Et sur le plateau de ce Salon du Livre de Montréal, c'est Jérémy Lagniel qui représente le Canada. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous.
Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir pour nous également. On va commencer par une histoire, comme c'est la tradition dans cette émission. Michel Tremblay, c'est à vous qu'on a demandé de réfléchir à une anecdote personnelle. Étonnante et racontable, bien sûr, à une heure de grande écoute.
Comme on est au Salon du Livre, j'ai décidé de vous raconter une histoire de Salon du Livre. Il y a quelques années, il y a une dame qui était venue me voir, faire signer un livre, et elle m'avait dit, dans un de vos livres, le héros a les yeux bleus, et dans le tome suivant, il y a les yeux gris. Est-ce qu'il y a une raison? Et j'avais dit, mon Dieu, madame, est-ce que vous misez parce que vous aimez ce que je fais ou pour me prendre en défaut? Et elle m'avait dit, ben, les deux.
Formidable histoire. Et remarque, c'est ça, mais quand on est fidèle, c'est un peu ça, on surveille l'auteur.
Oui, mais ça, tous les auteurs commettent des fautes comme celle-là, c'est ça.
Ah, c'était une faute carrément, oui, donc vous avez été pris à défaut.
Je me souviens, ça, je m'en étais rendu compte moi-même, dans la grosse chambre d'à côté est enceinte, il y a une prostituée qui partait avec une robe à carreaux, puis elle arrivait au parc La Fontaine avec une robe fleurie.
Ah oui.
Mais je m'en suis rendu compte.
Ah, mais l'éditeur, c'est le travail de l'éditeur. Enfin.
Oui,
absolument. Michel... Les lecteurs peuvent être très pointilleux parce qu'il y a un lecteur une fois qui m'a demandé qu'est-ce que vous avez contre le subjonctif du plus que parfait. Je ne comprenais pas, il m'a dit dans à peu près 15 de vos livres, il n'y a pas une seule fois où vous avez employé le subjonctif du plus que parfait.
Michel Tremblay est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Joséphine Bacon.
Quoi?
On se connaît, nous sommes allés ensemble à l'Oratoire Saint-Joseph, ici à Montréal, pour un entretien face à la ville, sur les hauteurs. Vous vous souvenez de ce moment? C'était il y a 2 ans.
Bien sûr.
On peut retrouver cet entretien, ce reportage sur notre site internet. Vous êtes une poétesse inoue invitée par Dany Laferrière aujourd'hui.
Ah, et je vous remercie pour cela. Et Joséphine Bacon, vous publiez Uyesh, ce qui veut dire quelque part en inou, et c'est un recueil magnifique. J'ai été bouleversé par ce recueil. Et vous avez traduit en français des poèmes que vous avez écrits en inou, ou vous avez traduit en inou des poèmes que vous avez écrits en français. Est-ce qu'il y a 2 personnes dans un seul poème?
Non, ça dépend. Ça dépend, par exemple, dans Tsnostagna, battant un message. Tu vois, ça parle de l'intérieur des terres, ça parle de notre mode. Et il fallait que je les écrive en inouaïmoun d'abord. C'était très important pour, par la suite, essayer de raconter ce que je dis dans ma langue en français. Tandis que Ouyesh, parce que je me retrouve à attendre l'autobus au coin de Bélanger où je suis au parc Molson, j'ai d'abord écrit en français, et puis dans mes 2 premiers recueils, on retrouve beaucoup d'inouaïmoun dans le français, tandis que dans Ouyesh, on retrouve des mots français dans le inouaïmoun, parce que c'est des mots qui n'existent pas dans ma langue. Donc on peut voir de cette façon quelle langue m'a guidée d'abord.
Vous parlez souvent de votre âge dans ce livre. Vous dites que vous êtes âgé, vous parlez de votre esprit, vous parlez de la lueur qui ne s'allume plus, vous parlez de votre fatigue. Est-ce que vous parlez de vous ou vous parlez de la mémoire de votre peuple?
Je parle du temps et je parle de, même si les années passent, de ne pas perdre la mémoire.
Ouais. Et Joséphine Bacon, je connais votre nécessité de voir l'horizon. C'est très important pour le peuple inou de voir au-delà des maisons et des immeubles. Et dans l'un de vos poèmes, vous écrivez « Je m'emprisonne dans une ville privée d'horizon ».
Oui.
Pourquoi est-il si nécessaire cet horizon-là?
J'ai besoin de voir l'horizon, tu sais, pour me projeter le plus loin que je peux et non pas être arrêté à un mur. Où j'aurais l'impression d'être freinée.
Ouais.
Quand je regarde l'horizon, tu sais, ma vie continue avec elle.
Avec la terre, avec la nature
terre,
qui parsème
et puis,
le recueil.
Et les directions. Tu sais,
et, oui, ouais. Ouais. Et cette tradition orale aussi, ce nomadisme dont vous parlez, qui porte comme ça le respect de la nature. Vous dites vouloir fouler la toundra et honorer le caribou, comme
bien
vos ancêtres.
Sûr.
Et vous déclarez être mouvement de la terre. Qu'est-ce que c'est être mouvement de la terre, Joséphine Bacon?
Être mouvement de la terre, c'est quand c'est marcher la terre. Si tu marches la terre, c'est parce que tu marches avec ses vibrations et son battement.
Et on est nous-mêmes vibration, c'est ça?
On devient vibration. Et puis je sais que si je retournais par exemple dans le Mohawk, là, je suis sûre que Mohawk reconnaîtrait le son de mes pas.
Le son de vos pas. Et j'ai dit que votre recueil est nu. Tout à fait, parce que j'ai tout lu. Et vous n'avez jamais parlé d'un seul arbre, d'une seule feuille, d'une seule branche. Vous avez parlé de la lune, vous avez parlé de la rivière, vous avez parlé de l'eau. Pourquoi il y a pas un seul arbre, un seul brin d'herbe dans tout le recueil?
Parce que j'ai pas besoin de parler d'eux, parce qu'un m'habite.
Dany Laferrière, Joséphine Bacon, il y a des libraires qui ont lu le recueil de poésie de Joséphine, la Suisse et le Canada. On commence par le Canada, ça vous va, Joséphine?
Oui, bien sûr.
Allons-y, Jérémy Lagniel.
Ça peut sembler cliché, mais il y a quelque chose de mystique à lire Joséphine Bacon lorsqu'on entre dans chacun de ses recueils. Je peux plus lire Joséphine Bacon sans entendre sa voix qui se porte sur la page. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas d'arbre dans Joséphine Bacon. C'est Joséphine Bacon elle-même, l'arbre auquel les fruits sont ses recueils qu'elle nous donne année après année. C'est un devoir de mémoire, ce recueil-là, en même temps d'un arrêt sur certaines images. Il y a un vers que j'adore. « J'habite un printemps d'hiver. » Tant que Joséphine sera là, je pourrais habiter un printemps d'hiver avec toi, Joséphine. Merci énormément pour ce livre-là.
Très amateur de poésie, hein, notre libraire québécois, on le connaît, hein, Jérémy Lagniel. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Avec Joséphine Bacon, ici, sur ce Salon du Livre de Montréal. On est ravis d'être avec vous. Et il y a à distance la jolie Laura Sanchez, pétillante Laura, qui a lu ce recueil de poésie aussi, Laura.
Oui, ben tout d'abord, moi, je voulais vous dire que je brûlais d'envie de vous entendre dire vos poèmes en innu, Madame Bacon. En vous lisant, je me suis demandé comment vous faisiez pour vivre à Montréal, si vous y vivez toujours, tant vos thématiques sont essentiellement d'inspiration naturelle. Et d'ailleurs, vous évoquez aussi l'âge, la vieillesse, avec une très belle sérénité, comme un signe de plus que la nature est toute puissante.
Nous allons lire justement deux de vos poèmes à deux voix, ça va faire plaisir à Laura. Deux textes très courts, celle qui va lire en français, c'est l'actrice Émilie Bibeau qui est avec nous. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur le plateau de la librairie francophone.
Ça me fait grand plaisir, je suis très honorée.
Depuis 15 ans, vous interprétez des rôles à la télévision canadienne et au cinéma. Vous chanterez dans quelques minutes avec Tristan Malavoie et vous allez lire ce texte de Joséphine Bacon. L'auteur enchaînera, Joséphine, vous enchaînerez en langue innu. Et on va vivre comme ça deux poèmes très courts. En français et en innu, et vous commencez, Émilie.
Je vis la grandeur du vent, je sens sa beauté, le vent me prend dans ses bras, il souffle un air mélodieux que j'aimerais écrire. Tu sais, petit frère, personne ne vole les éléments, sont humains. Une personne d'air, une personne de feu, une personne d'eau. Personne ne peut voler la terre qui t'a vu naître. Personne ne peut voler ton sourire.
Émilie Bibeau et Joséphine Bacon, la poésie innu de Joséphine Bacon ici au Canada, à Montréal, dans la librairie francophone. Merci beaucoup Joséphine, merci Émilie, merci beaucoup.
Nous sommes très touchés par la poésie de Joséphine Bacon. Et si je l'ai invitée à cette émission, c'était pour simplement dire qu'elle est actuellement l'équivalent d'un Gaston Miron pour la poésie innu.
Une dernière question, Joséphine, avant de vous laisser. Vous écrivez « Ma terre est bafouée par un serpent venimeux où coule mon histoire ». Quel est ce serpent venimeux? Qui est-il?
Le pipeline.
Le, pardon?
Le pipeline.
Ah, le pipeline. Oui. Pipeline.
Oui.
C'est ça, oui.
C'est ça.
Eh oui. Merci beaucoup Joséphine. Où y ai-je? Quelque part, est paru aux éditions Mémoire d'Encrier, qui célèbre d'ailleurs ici au Salon du Livre de Montréal ses 15 ans. Vous pouvez applaudir hein, Joséphine Bacon. On souhaite bon anniversaire avec beaucoup d'affection à Mémoire d'Encrier. On salue le grand Rodney Saint-Éloi. À suivre Bernard Werber qui publie une encyclopédie atypique. Restez à l'écoute, vous allez apprendre plein de choses et vous aurez plein d'histoires à raconter à votre entourage à la fin de cette émission. Et voici l'artiste et écrivain Tristan Malavoie. Il a sorti cette année un livre-disque, L'école des vertiges. Il va en interpréter un extrait avec l'actrice Émilie Bibeau que vous venez d'entendre. Ce disque est un grand voyage à travers le monde. Voici Abécédaire, qui raconte la vie à deux quand on voyage. On en parlera tout à l'heure. Tristan Malavoie et Émilie Bibeau qui sont installés sur notre plateau dans la librairie francophone ici au Salon du Livre de Montréal.
A pour Aïda, B pour Biolay, C pour tous ses colliers, D pour Dali, E pour encore, F pour je t'aime très fort.
G pour les glaces, H pour les houles, I pour Istanbul. J je ne sais quoi, K, karaoké, L pour la liberté.
Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore.
T'auras toujours le dernier
toujours le dernier mot.
M pour maman, N sur ta nuque, O pour les opéras de Gluck.
P pour Paris, Q sur les quais, R pour recommencer.
S pour secret et transsibérien, U, usons les chemins.
V grand voilier, W wagon, X encore un Xérès allongé sur le pont.
Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore.
T'auras toujours le dernier,
toujours le dernier mot. Yin et yang sur le pont d'un yacht, ton cœur yolo, mon cœur yoyo. Zèbre zen, zeppelin pour Zanzibar, oh, puis reprendre à zéro.
Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Pa-pa-pa-ra-ta-ra-pa, il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore. T'auras toujours le dernier, toujours le dernier mot.
Tristan Malavoie et Émilie Bibeau sur notre plateau et sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter. Merci Tristan, merci Émilie, venez nous rejoindre. Quelle belle voix vous avez, Émilie.
Merci, c'est gentil.
Non,
merci
mais c'est
beaucoup.
Vrai, je dis ça parce que vous n'êtes pas chanteuse. Vous pouvez les applaudir, Émilie ouais. Bibeau et Tristan Malavoie.
Merci. Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et avec Dany Laferrière aujourd'hui en co-animation. Bonjour Tristan Malavoie.
Bonjour.
L'école des vertiges est un livre disque qui est inspiré par la notion de voyage. Les 10 chansons ont été écrites sur les routes du monde.
Sur les routes de Russie, sur les routes du sud des États-Unis, sur les routes des îles de la Madeleine. Ouais.
Ouais, partout, comme ça. À chaque fois, partout, vous sortez votre carnet.
Puis, c'est drôle ce qui est arrivé parce que la production du disque était déjà enclenchée quand j'ai réalisé que toutes les chansons retenues pour cet album avaient été écrites sur les routes. Ouais. Et de là, l'idée d'associer aux chansons une espèce de récit, de raconter ouais. des anecdotes de voyage, des réflexions qui m'ont traversé l'esprit sur ces routes.
Alors, vous racontez le contexte de chaque chanson dans ce livre. Celle que vous venez d'interpréter, Abécédaire, raconte la vie à deux quand on part en voyage. Il y a des couples comme ça qui se séparent, des amitiés qui se brisent même à cause d'un voyage.
C'est le test ultime, hein, le voyage. On ne connaît pas quelqu'un tant qu'on n'est pas parti en voyage ouais. avec lui, avec elle. Le voyage, ça révèle la tolérance ou l'intolérance à l'inconfort, à l'inattendu, ouais. à tout ce qui survient durant un voyage, quoi.
Il faut être complice et intime, en fait, pour que ça se passe bien, quelle que soit la relation.
Idéalement.
Oui. Et parfois, même les voyages, ça peut souder deux personnes.
Ben oui, parce que...
Parce qu'on se souvient de ce qui est arrivé et on a en mémoire, comme ça, toute sa vie des moments.
Oui, puis dans le petit récit, je dis d'ailleurs, il y en a qui sont partis en amour et cet amour a éclaté sur les routes. Il y en a d'autres qui sont partis en amis et qui sont venus en amour. Le ouais. voyage peut aussi sceller, en effet.
Et puis le voyage lui-même, Tristan. J'ai l'impression que vous êtes tombé amoureux du fait d'être en mouvement constamment dans ce train en sibérien qui m'a rappelé un peu Sandra.
Oui, que je cite d'ailleurs dans le récit. Ben, en fait, le voyage est peut-être tout particulièrement le voyage en solitaire, c'est un mouvement double. C'est un mouvement physique, oui, dans l'espace, il y a quelqu'un qui s'assoit dans le train à Moscou, direction Vladivostok, mais il y a aussi tout ce qui se met en branle à l'intérieur de soi. Et puis ça, c'est quand même assez intéressant comme matière pour un écrivain.
Émilie il est vu Vigo. Aussi dans le fleuve Amour.
Pardon,
Dany, excusez-moi.
Non, mais allez-y, je vous en
prie. Non, allez-y.
Non, mais je vous en prie.
On co-anime.
Ah, ben, on co-anime. Bon, on se rôde un peu aujourd'hui, mais on co-anime.
Dans ce fleuve Amour que vous vouliez t'en voir, quel magnifique nom, ce fleuve Amour. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'il y a toujours quelque chose de doux et amer. Le fleuve Amour, on voudrait peut-être dire aussi un fleuve boueux.
Ben, en fait, Amour, c'est simplement une transposition du terme russe Amour, qui en bouriat veut dire boueux. Alors, ce qu'on trouve si magnifique, c'est peut-être à moduler un petit peu par cette question-là.
Émilie Bibeau, vous avez vécu des voyages compliqués, vous, avec votre chum ou avec une amie?
Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à une anecdote. Non, mais moi, je suis assez facile à vivre. Oui, je suis très, en plus d'avoir une belle voix, je suis très agréable.
En toute modestie, bien
oui,
sûr.
En toute humilité.
Oui, c'est ça.
Non, mais j'étais très heureuse de participer au projet de Tristan, parce que, comme on vient de dire, je trouve qu'il y a une façon dans son écriture d'allier le mouvement extérieur de l'être humain qui amène un mouvement intérieur, puis une façon divine de l'écrire. Donc, j'étais très honorée de travailler avec lui.
Quel est le voyage Tristan qui vous a été le plus profitable, qui vous a peut-être fait évoluer aussi?
Ah, ben alors, il y a ce voyage en Russie qui a été assez initiatique pour moi, parce que je suis parti il y a quelques années seul, traverser toute la Russie. J'ai pris le Transsibérien sur un mois. C'est un projet que j'avais en tête depuis très, très, très longtemps. Et puis, c'est vrai que ça a été un moment de bilan. Il y a des périodes durant ce voyage où, aux deux tiers du trajet à peu près, là, quand on en est aux steppes sibériennes, on a l'impression de se mettre à léviter un peu. Moi, je m'assoyais souvent au wagon-restaurant du train où il y avait très, très peu de gens, d'ailleurs. Souvent, j'étais seul dans un wagon-restaurant. Oui. Je me commandais une petite bière et puis j'écoutais de la musique. Et j'ai une amie qui m'avait préparé un programme de musique russe que j'écoutais.
Pour être en condition,
oui. Oui, c'est ça. Puis il y a des moments où vraiment j'avais l'impression que le train s'élevait au-dessus des rails et où je planais, puis où ça a été un moment assez béni pour ce qui est de la réflexion quant à où j'en étais moi dans la vie, puis à certains sujets sociaux, politiques. Ouais.
Bien, merci beaucoup Tristan Malavoie et Émilie Bibeau pour ce titre joué dans les conditions du direct. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir bien sûr.
Merci.
Pas mal, hein, Daniel.
Ah, c'était très bien.
ABCDR, très belle chanson. Je voulais vraiment la faire découvrir à tous les auditeurs francophones.
Puisqu'on n'a pas dit aussi, c'est la plasticité de l'écriture. Elle est très belle. Ce n'est pas un écrin uniquement pour vos chansons. Le texte du livre est très beau.
L'école des vertiges. Oui, Tristan.
Venant de Daniel Laferrière, évidemment, ce sont des mots précieux.
C'est pas mal. L'école des vertiges est édité par l'Hexagone, un livre CD avec 10 chansons, 10 voyages commentés. Merci à vous. À bientôt.
Merci.
La librairie francophone au Salon du Livre de Montréal. Emmanuel Quirade, Daniela Ferrière.
Et bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Bienvenue dans la librairie francophone. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu vient de paraître aux éditions Albin Michel. Depuis plus de 20 ans, vous la complétez et vous racontez que depuis l'âge de 13 ans, vous collectionnez les histoires.
Oui, parce que j'ai un petit problème, j'ai très peu de mémoire, donc il faut que je note tout et j'ai peur d'oublier les choses extraordinaires que j'ai rencontrées dans la vie. J'ai l'impression que toutes les vies sont extraordinaires, le seul problème c'est d'oublier.
Ouais.
Il faut que je note et en même temps il faut que je partage. C'est-à-dire, une fois que j'ai trouvé ça, il faut que je fasse découvrir ça aux autres.
Oui, c'est un travail de recherche comme ça, qui vous a inspiré d'ailleurs pour tous vos livres. On y retrouve évidemment les fourmis qui ont fait votre réputation. Et dans ce gros livre de 700 pages, il y a plein d'histoires insolites, de faits historiques, de personnes qui ont changé des choses dans le monde aussi, comme ce jeune Australien de 13 ans qui s'appelle James Harrison, et qui, en donnant son sang, va sauver 2 millions d'enfants.
Oui, j'ai essayé de trouver les gens qui ont fait le plus de bien à l'humanité, et souvent qui ne sont pas connus. Je cite aussi Semmelweis, qui est le monsieur qui a inventé le fait de se laver les mains avant d'opérer les femmes, et ce qui a entièrement changé la mortalité infantile, donc qui a sauvé énormément de gens, et qui a été oublié, et qui a été très maltraité, parce qu'en fait, il est mort dans un asile de fous. Il me semble à un moment, il faut se rappeler qui c'est qui fait du bien, qui c'est qui fait du mal à l'humanité. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai cité quelques-uns de ces noms.
Alors ce petit James Harrison, c'est incroyable, parce que pendant 56 ans, il va effectuer 1000 transfusions sanguines, parce qu'il a un antigène, en fait, qui est capable de sauver les bébés souffrant de la maladie du rhésus.
Oui.
C'est incroyable, cette histoire.
C'est source d'émerveillement, c'est le principe d'encyclopédie, c'est les petites choses pas trop connues qui donnent à réfléchir. Donc
ça vous émeut, j'ai l'impression, Bernard.
Oui, En fait, ce qui m'émeut, c'est cette planète dans son ensemble. Ça va paraître bizarre ou trivial, mais le réel est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut sortir de manière romanesque. Quand on connaît la vraie vie des gens, la vraie histoire de l'humanité et les vraies découvertes, c'est complètement extraordinaire. Ce mais monde
vous
est extraordinaire.
Pas, vous n'êtes pas uniquement méditatif comme ça, vous êtes aussi trivial. Parlez-moi de la disparition des morpions.
Ben, ah oui, j'avais relevé ça aussi.
C'est une dépêche AFP qui est sortie. On s'est aperçu que le fait que les gens se rasent le sexe plus souvent fait que les morpions disparaissent. Mais le plus trivial du livre, c'est un truc sur la sexualité des punaises d'Eli. Et le type le scientifique qui m'a raconté ça avait tellement honte de ce qu'il me racontait, parce que la sexualité des punaises d'Eli est au-delà de la pornographie, que après il a dit, après l'interview que je vous ai fait, je ne ferai plus jamais aucun interview, ce qui fait que j'ai l'exclusivité totale sur ce sujet. Alors, rapidement, je vais vous raconter la sexualité punaise d'Eli parce que j'aime bien la raconter. C'est un animal qui, par des mutations complexes, d'abord il est myope, donc ils font l'amour aussi bien avec des mâles, avec des femelles, mais ils font aussi des partouzes. C'est les mêmes punaises d'Eli qu'on a dans les lits. Hein. Et il y a eu tellement de sexualité chez cet animal qu'il s'est mis à apparaître des mutations qui font que les femelles ont eu des vagins secondaires qui poussaient dans le dos et sur la tête et sur les bras.
Oh là là.
Mais aussi les mâles ont eu des sexes qui apparaissaient comme ça. Et en plus, il y a une mutation qui fait que le sexe du mâle, la punaise d'Eli, un sexe en forme de seringue, il arrive à percer la femelle n'importe où dans le corps et ça féconde
n'importe où dans le corps.
Oui, et ça féconde l'animal et il y a une évolution encore supplémentaire où le sexe du mâle est devenu une sorte de pistolet à eau qui permet de frapper à distance une femelle.
C'est un film d'horreur.
C'est pas politiquement correct, mais c'est la nature. La nature n'est pas politiquement correcte et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir qu'il y a une évolution complètement pornographique étrange chez la punaise d'Eli.
On parle tout le temps de sexe à Montréal. À chaque fois qu'on fait une émission au Salon du Livre, je sais pas pourquoi.
Pour se chauffer. Ouais, ça fait froid.
On va parler de sexe avec Michel Tremblay tout à l'heure. Et...
Oui, tout simplement. Légère fantaisie assez rapidement, Bernard.
Oui.
Good luck, Mr. Gorski.
Oui,
alors, c'est joli, c'est joli.
Quand le premier pas de Armstrong sur la Lune, il a dit en effet un petit pas pour moi et un grand pas pour l'humanité. Et il a dit aussi Good luck, Mr. Gorski. Et en fait, c'est en référence, j'essaie de le faire très vite, à son voisin qui avait dit le jour où le voisin mettra le pied sur la Lune, ben, je te ferai une pipe. Hein. Enfin, c'était donc la voisine. Et donc, il s'en est rappelé, il a sorti ça. Mmh. Alors,
bien, merci beaucoup, Bernard Werber.
C'est vous qui me poussez vers la sexualité.
Ah non, c'est Dany Laferrière.
Non, mais c'est.
On co-anime.
Je rêve de parler de sujets autres. Scientifique.
Mais justement, j'en ai moi de la science.
Ça, vous avez pas honte.
Non, c'est vrai, c'est honteux, Dany. C'est très scientifique parfois ce livre, Bernard, parce que vous expliquez le pouvoir des végétaux et ces animaux qui consomment des plantes hallucinogènes. Et ça, c'est incroyable. Il y a les rennes du Canada qui mangent un champignon rouge qui est sur l'écorce des bouleaux, je crois, et qui leur provoque comme ça des vertiges et des spasmes. Et le chat domestique également mâche de la catère.
L'herbe à chat.
Qui provoque voilà des effets proches de l'ecstasy. Et c'est là qu'ils se mettent à chasser la souris qui n'existe pas quand vous le voyez faire ça. C'est qu'il est drogué, le chat, en fait.
Si vous me parlez de ça, c'est que vous avez eu un chat. Parce que c'est tellement caractéristique. Tout d'un coup, les chats deviennent dingues.
Oui, c'est vrai.
Pas pourquoi, ils ont leur quart d'heure de folie. Mais en fait, ce qui me semblait étonnant, c'est que toutes les espèces animales ont leur drogue. C'est-à-dire un produit qui leur fait des alus. Les dauphins ont ça. Ils prennent un petit poisson qui les rend complètement dingues. Et c'est comme si on avait besoin par moment de quitter le réel. Tous les animaux ont besoin de quitter le réel.
Alors, on va parler d'une autre bestiole qui, elle, est immortelle. Une méduse, c'est incroyable. Ah oui. Mais d'abord les libraires, avec deux libraires qui sont bien marrés d'ailleurs en lisant votre livre.
Les libraires aussi sont immortels.
Les libraires sont immortels, j'espère. Oui, c'est ça. Déborah Damblon, en Belgique, vous êtes emballée par ce livre.
Ah bah oui, hein, mais quelle bonne idée de ressortir une encyclopédie en ces temps où elles se font bêtement supplanter par l'internet et puis qu'elles semblent presque d'un autre âge. Alors mais quelle joie de redonner envie de fouiller, de partager, de raconter. Et puis c'est si bon dans notre monde où le livre qui devient si vite obsolète, et ben de voir réapparaître quelque chose qu'on avait aimé et qu'on avait presque oublié.
Merci Déborah.
Ah ben c'est magnifique, Jérémy Daniel.
Oui, c'est Jérémy Daniel, c'est ça, pour le Canada.
Oui, je me rappelle avoir pioché dans cette encyclopédie il y a plus d'une dizaine d'années, au moment que j'avais lu les fourmis, 10-15 ans, j'y avais eu beaucoup de plaisir, vous pouvez comprendre avec toute la sexualité qu'il y avait là-dedans, moi j'étais aux anges, mais non, au-delà de ça, il y avait plein de faits assez intéressants. Y retournant aujourd'hui, je croyais m'ennuyer un peu. Au contraire, il y a une candeur que j'ai aimée dans l'écriture, dans justement dans cet émerveillement constant à chaque histoire de Verber derrière son sujet. Vraiment assez intéressant comme bouquin.
C'est vrai, c'est très intéressant, c'est passionnant, Bernard. Cet animal, donc, la méduse, une petite méduse découverte dans la mer des Caraïbes, qui a la capacité incroyable de rajeunir ses cellules à l'infini. Elle vieillit, elle se dit non, je vais redevenir adolescente, elle rajeunit. Donc, elle est immortelle.
Elle fait demi-tour. Non, parce qu'elles deviennent malades et elles ont des prédateurs. Mais il y a des animaux qui ont des modes de maîtrise du temps et de l'âge qui pourront peut-être nous servir à nous, ouais, à ouais. devenir immortels. Et c'est vrai que nous avons dans la nature probablement des solutions à tous nos problèmes. C'est juste qu'on n'y fait pas attention. Mmh. Par exemple, il y a un crapaud qui existe au Canada qui a la capacité d'être congelé et d'être dégelé. C'est-à-dire qu'on peut faire la cryogénisation qui marche. Ça marche que sur ce crapaud. Et donc, ça pourra nous servir à faire de la cryogénisation qui fonctionne, alors que pour l'instant, on n'arrive pas à maîtriser la cryogénisation.
Mais ce qui est amusant, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est comme un buffet chinois. Il y a pour tout le monde. On ne s'arrête pas sur un seul thème. On change, même à l'intérieur d'un grand thème, on change tout le temps d'histoire, des histoires graves, des histoires intéressantes, des histoires scientifiques, des gens illustres. Et tout cela nous rappelle cette époque où l'on découvrait comme ça dans la bibliothèque familiale, un almanach, ouais, des magazines. Et c'est bien fait. Le papier est bien. La typo. Et c'est tout à fait bien.
Les
images
objet,
aussi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la nostalgie.
Vous notez aussi, Bernard Verber, que seules 5 espèces arrivent à s'adapter à toute nourriture. Ouais. Et où qu'elles soient sur Terre, en fait, elles peuvent vivre. Ces espèces sont l'homme, la fourmi, le cafard, le cochon et le rat.
C'est celles qui peuvent nous remplacer, enfin, en dehors de l'homme, si nous...
On est semblables, quoi. Ouais.
Ils ont une capacité de s'adapter à tous les milieux, à toutes les nourritures. Souvent, il y a des espèces qui disparaissent parce que leurs sources de nourriture disparaissent, donc ils sont liés à une nourriture. Mais celles-là, ils sont omnivores. Mais omnivore est très adaptatif, surtout pour le rat, qui... je sais pas si vous avez ce genre de problème au Canada, mais à Paris, il y a de plus en plus de rats et personne ne trouve de solution, je crois, à New York aussi. Et je crois que le rat a un grand avenir, malheureusement. La fourmi aussi.
Oui, la fourmi. Alors justement, la fourmi, page 562, Bernard, vous faites une confidence. Depuis que votre livre à succès sur les fourmis a fait un carton comme ça en librairie, on vous demande souvent comment s'en débarrasser dans une cuisine. Et alors, c'est une question qui ne vous plaît pas trop, ça. Parce que vous dites que la fourmi était là bien avant l'homme, déjà. Commençons par ça.
Les fourmis sont là depuis 120 millions d'années. L'homme, au mieux, est là depuis 3 millions d'années. Ça veut dire qu'elles ont pris 117 millions d'années d'avance sur nous. Elles construisent des cités qui fonctionnent bien mieux que nous. Elles ont une agriculture, elles font les guerres, elles ont une médecine, elles ont aussi de l'alcool, elles ont leur drogue. Et ça me semblait une sorte de mépris total pour une civilisation de dire, ils encombrent ma cuisine. De quel droit votre cuisine vous appartient? C'est un peu comme les premiers conquistadors qui arrivent en Amérique et qui disent, oh là, il y a des sauvages, il faudrait peut-être nettoyer ce pays de ces sauvages. C'est un point de vue. Mais pour les fourmis, c'est juste, qu'est-ce que c'est que ces humains qui sont venus nous piquer notre nourriture? Voilà. J'aime bien cette idée, changeons de point de vue. Et tout d'un coup, on comprend mieux le monde.
Il y a un truc quand même pour faire fuir les fourmis, très simple, c'est le basilic.
Voilà, mais en fait, même du jus de citron, tout ce qui sent perturbe leur communication parce qu'elles communiquent par les odeurs, les phéromones. Donc si vous pissez, ça va arrêter les fourmis. Si vous mettez de l'eau de Javel, ça va arrêter les fourmis. Vous mettez du parfum, ça va arrêter les fourmis. Mais pourquoi les arrêter? C'est la question. Une maison où il y a des fourmis, c'est une maison où vous n'aurez pas de blattes et vous n'aurez pas de moustiques.
Alors donc, ça, c'est pas mal,
les fourmis ont un porte-parole magnifique et...
C'est Bernard, c'est sûr. C'est une fourmi, d'ailleurs.
Non, elles nous font beaucoup de bien, mais on ne leur dit pas merci, c'est dommage.
Vous êtes un grand gourmand, Bernard Verber, car il y a aussi des recettes dans cette encyclopédie. Et vous donnez un truc pour terminer, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, un truc pour savoir, sans le casser, si un œuf est cru ou cuit. Alors, je ne connaissais pas ce truc-là. C'est de le faire tourner.
Exact. Tout simplement, c'est physique.
On l'arrête avec le doigt.
Voilà.
Et s'il est cru, il continue à tourner parce que le jaune à l'intérieur n'a pas fini sa rotation. C'est génial. Ouais, c'est
ça. Ce qui est marrant, c'est que vous ayez retenu ça. Il y a tellement de petits segments. Mais c'est vrai que vous faites de la cuisine, en fait.
Aussi, ouais.
Voilà, c'est pour ça.
J'ai eu un chat, je fais de la cuisine. J'aime Dany Laferrière.
Les gens arrivent avec une grille de lecture, ils vont retenir certains éléments qui rentrent en phase avec leur propre vie.
Merci beaucoup, Bernard Verber.
Merci.
On était ravis de vous trouver dans la librairie francophone. Pour la première fois, Bernard Verber dans la librairie. Applaudissez-le, Bernard Werber, vraiment, magnifique livre. Bravo.
Merci.
L'encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est chez Albin Michel. Dans un instant, la chronique des libraires, Michel Tremblay et une jeune lectrice de 14 ans qui va vous donner son coup de cœur littéraire. Bonjour Evelina.
Bonjour, ça va bien?
Ça va et toi?
Ça va très bien.
Comment ça se passe pour toi en plateau, là, avec tout le monde?
C'est plein de câbles, c'est...
C'est plein de câbles. Oui, ouais. Il y a des câbles sur la table. Ça, oui. Mais Bernard Werber, Daniela Ferrière, tout ça, tu n'es pas impressionné, non? Ça va? Non, pas du tout. Bon.
Mais moi, je le suis.
Allez, on écoute tout de suite le dernier titre de Mélissa Lavaux et on revient ici à Montréal avec Evelina et tous nos invités au Salon du Livre. Merci d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Cousin wa panti ma chomel tan Cousin pa pran cousin no Cousin Cousin no cousin no
La chanteuse québécoise d'origine haïtienne, Mélissa Lavaux, avec Cousin sur votre radio francophone. Vous connaissez Mélissa Lavaux, Daniela Ferrière?
Oui, tout à fait. Et cette chanson est magnifique. C'est un des classiques de la chanson populaire haïtienne.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec un coup de cœur de Jérémy Laniel au Canada. C'est assez rare pour le mettre en valeur.
Oui, tout savoir sur Juliette. Non,
d'habitude, il est méchant, mais là, vous êtes super sympa aujourd'hui.
Oui, il faut célébrer, j'ai du plaisir, ça, il y a des bons livres.
Allez-y, célébrez vite parce qu'on est en retard.
Tout savoir sur Juliette d'Éric Vigneault, le premier roman d'Éric Vigneault publié chez Cheval d'Eau. C'est une des choses les plus jouissives que j'ai lues en littérature québécoise dans les dernières années. Ça rappelle Thomas Bernard, Enrique Vlamatas, Antonio Lobo Antunes. La phrase est longue, court sur plusieurs pages, sous paragraphe, sans point. Il y a une bataille de qui a les meilleurs suicidés entre Picasso et Thomas Mann dans leur famille généalogique. C'est splendide, drôle, cynique, j'ai adoré.
Éric Vigneault, tout savoir sur Juliette au Cheval d'Oud. Merci beaucoup, Jérémy.
Mais il n'y a pas que des coups de cœur, coups de gueule, Dolora Sanchez en Suisse.
Mais oui, moi j'aimerais pousser un coup de gueule aujourd'hui au sujet de la dernière BD de Bastien Vivès. Alors, c'est une BD porno sur laquelle je n'ai strictement pas d'avis, mais qui a subi la censure
pourtant,
du diffuseur suisse. Alors, ouais, le livre est vendu avec un plastique autour, ce qui semble normal au vu de son contenu, mais est-ce bien le rôle d'un diffuseur de décider pour les lecteurs suisses de Bastien Vivès? Je vous le demande.
Et est-ce bien le rôle d'un auteur de dessiner un petit garçon qui a des relations sexuelles et ses limites pédopornographiques, comme on dit? Mais voilà, ça a fait débat et on en parle beaucoup. Je ne sais pas si on peut donner un avis là-dessus, mais bon, on n'en parlera pas. Voilà, tout simplement. Merci Laura. Autre coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Ben oui, moi j'ose pas toujours dire les choses en face, alors je profite du coup de gueule pour essayer de faire comprendre Ah ben ouais, voilà, c'est comme ça. Je voudrais faire comprendre à tous les parents, à tous les grands-parents qui veulent faire lire à leurs enfants les livres qu'eux, ils ont aimés quand ils étaient petits, que quand ils étaient petits, c'était il y a très 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 longtemps, et que les livres, ils n'ont pas forcément bien vieilli. Bon, pas tous, hein, il y a des exceptions, je vous l'accorde, mais je leur conseille de choisir plutôt de la très bonne littérature jeunesse contemporaine. Et puis s'ils n'ont pas d'idée, c'est pas grave, qu'ils demandent confiance à leur, qu'ils fassent confiance à leur libraire.
Merci Déborah. On va parler de littérature jeunesse justement avec nous. Depuis le début de l'émission, il y a Evelina qui a 14 ans. Tu habites où Evelina ?
Dans la ville d'Anjou.
À Montréal, c'est ça à côté ?
Exactement.
Juste à côté. Tu as choisi un livre, ton coup de cœur, que tu vas donc conseiller à tous les auditeurs. De quel livre s'agit-il alors ?
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la série Juliette par Madame Roselyne Brasset. Et puis j'ai aimé le contexte. C'est une jeune fille qui voyage avec sa mère partout dans le monde. Puis on nous présente des restaurants, des musées, puis leurs aventures là-bas. Et les personnages sont attachants, ils sont drôles. Et puis,
et puis quoi ?
Quand on commence à lire le livre, on est attaché au livre, on ne peut pas le lâcher. C'est vraiment intéressant.
C'est vrai. On va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
C'est ça.
Bon, elle est très émue. Evelina, vous pouvez l'applaudir, elle a 14 ans. Sa première émission de radio internationale, quand même. Un petit mot de Dany Laferrière.
Oh, sûrement, continuez. Vous savez, c'est tout à fait ce qui est le plus intéressant, c'est de rester tranquillement dans un coin, calme, à lire. Parler du livre, c'est magnifique, mais mieux encore, c'est de lire.
Merci beaucoup, Evelina. Si comme Evelina, vous avez entre 12 et 17 ans et que vous voulez nous parler d'un livre, eh bien, contactez-nous par mail la librairie francophone@radiofrance.com. Et Michel Tremblay est avec nous pour son nouveau livre ici au Salon du Livre de Montréal. Émission spéciale co-présentée par Dany Laferrière. 23 secrets bien gardés est un recueil de textes qui raconte des morceaux de votre vie, Michel. C'est parfois très intime. Vous osez par exemple un récit dans un cinéma porno gay où vous perdez votre pantalon, Michel Tremblay.
Je savais que vous commenceriez.
Ça dépend.
Je le savais.
C'est à New York, sur la 8e avenue. Racontez-nous en substance.
Un détail.
Ben, ça fait partie des choses dont on a un petit peu honte, qu'on garde pour soi. Puis à un moment donné, on se dit, je sais pas, si je la racontais, ça pourrait être drôle. C'est comme n'importe quelle comédie, bien sûr. Ce qui se passe sur la scène au théâtre est épouvantable pour les gens qui le vivent, mais c'est très drôle pour les gens qui sont dans la salle. Alors, pourquoi ne pas le raconter, pas de façon drôle, mais de façon à ce que les gens qui vont lire trouvent la chose tellement absurde qu'ils vont.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans rire. Alors, le cinéma?
Je voulais pas venir là. C'était les années 70 et on essayait des choses, on faisait des tentatives, on faisait des expériences. Bon. J'avais entendu parler de la 8e avenue, qui était le royaume du porno, avec la 42e à l'époque, avant que Walt Disney se jette sur la 42e et en fasse ce que c'est devenu maintenant. Et on m'avait parlé d'un cinéma porno où on pouvait faire des choses derrière l'écran. Tu rentres dans le cinéma, tu ne t'attardes pas là, tu montes le petit escalier à droite et tu vas derrière et là, il y a des choses qui se passent. Et je voulais expérimenter la chose, alors j'ai expérimenté la chose. Et je suis arrivé là, effectivement, ça sentait fort, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y avait beaucoup de monde, et je me suis laissé emporter.
Déshabiller, quoi.
Je me suis laissé déshabiller.
Alors, le problème, c'est que vous avez vos papiers.
Pour me rendre compte, à un moment donné, que je ne trouvais plus mon jean.
Et c'est avec les papiers à l'intérieur.
Je ne trouvais pas, et j'avais pas. À l'époque, on ne portait pas de sous-vêtements, c'était plus sexy.
Ah bon?
Alors, on avait un pantalon, mais on n'avait rien en dessous. Alors, j'avais perdu mon jean et j'avais rien en dessous, alors j'étais à quatre pattes. Et je cherchais désespérément.
Bien.
Mon
on va s'arrêter là.
Je ne le trouvais pas.
On va s'arrêter là.
On s'arrête là.
Nickel. On s'arrête là, d'autant plus
mais
que
c'est un moment de panique absolument épouvantable.
Ah, ben j'imagine.
D'un homme.
Ah, ben oui.
Écoutez.
Ouais, là, on ne peut plus l'arrêter, mais c'est un livre, il faut le dire aussi, très, très doux, qui commence à l'enfance, des évocations sensibles. Et on connaît tous le rapport de Michel avec sa famille, avec sa mère qui est au centre. Et des chapitres qui alternent avec d'autres un peu plus adultes, et comme ça. Le livre tourne autour de l'humiliation souvent, et l'une des histoires concerne le ministre de la Culture français, Jacques Lang.
Jacques Lang.
Alors ça, oui, il y a des passages très drôles, effectivement.
Et qu'est-ce qui se passe
avec un jour, en fait, vous êtes décoré en France et vous allez à la délégation du Québec à Paris. Il y a le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang. Et vous,
qui désire me rencontrer.
Et vous postillonnez sur sa cravate.
Oui.
Mais genre le postillon, postillon.
Oui. On vient me dire, bon, le ministre qui vient de vous donner la médaille veut vous rencontrer. Je le rencontre. Et en lui disant enchanté, je me rends compte que j'avais quelque chose dans la bouche et que, bon, un beau postillon est allé se coller sur la cravate bleue France de Jacques Lang. Alors, évidemment, c'est... Et on a tous les deux réagi comme nos sociétés. Moi, j'ai allongé le doigt et j'ai décollé...
Ah oui, oui, oui.
J'ai décollé le postillon et lui a regardé comme tout bon français. Il a fait comme si de rien n'était. Il a regardé ailleurs. Mais au bout de 10 secondes, il était plus là, il était disparu. J'ai jamais revu. Alors non, mais... j'ai décidé, j'avais tellement honte que j'ai décidé de ne jamais retourner à la délégation du Québec. C'était en 91, je pense. Oui. Et je n'y suis jamais retourné.
Bon, on va vous emmener.
Votre mère le dit très bien, elle vous connaît, elle sait que vous finissez par une pirouette et il n'y a rien qui pourra vous arrêter dans la vie. Même cette scène où vous avez été en classe et
oui.
humilié par un professeur. Et vous avez tourné ça à votre avantage.
Alors, il vous frappe, hein, le professeur, à l'époque, parce qu'il ne vous aime pas, en fait. C'est un professeur d'anglais, vous êtes très bon en anglais.
Parce qu'il me trouvait arrogant. C'était le professeur d'anglais, puis j'avais répondu... je savais une réponse et j'ai répondu avant tout le monde, alors qu'il posait la question à quelqu'un d'autre. Et ça l'a choqué. Il me guettait depuis assez longtemps. Et il m'a demandé de me pencher sur... sur son bureau, en équerre, les pieds sur le plancher, à plat ventre sur son bureau. Et il m'a frappé, et j'ai mouillé mon pantalon.
Ouais.
Et à 14 ans, un petit gars qui mouille son pantalon devant 30 élèves, c'est absolument épouvantable. Alors, j'ai décidé d'y faire face, et je me suis relevé, et je me suis montré à tout le monde.
Et vous avez dit surtout une phrase.
J'ai quitté... Il n'était pas question que je ne dise rien. Il n'était pas question que je quitte cette classe-là, humiliée et pour toujours, parce que je savais que je reviendrais jamais. Alors, très grandiloquent, je suis allé vers la porte. J'ai ouvert la porte, je me suis retourné vers la classe et j'ai dit, un jour, vous entendrez parler de moi. J'ai quitté. Il y avait aucune chance que ça arrive. Heureusement, c'est arrivé. Mais c'était juste de l'orgueil, de l'orgueil pur, ne pas partir humilié, dire quelque chose.
C'est une revanche sur la vie, ce livre, Michel Tremblay?
Non, je pense pas. Je voulais écrire un tout petit livre, il y a à peine 100 pages, avec des tout petits textes qui ont 2 ou 3 pages, et de façon à ce que, à la fin, quand la lectrice, le lecteur éventuel aurait fini de le lire, ils auraient l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Mmh. Alors, c'était pas une vengeance ou quoi que c'était, donner du pointillisme, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et par petites touches, donner l'impression qu'on a rencontré quelqu'un et c'est un personnage presque complet.
Place à nos libraires maintenant et on va retrouver Déborah Damblon de la Belgique. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire à propos du livre de Michel Tremblay, Déborah?
Eh bien, Dani, tout à l'heure, on parlait d'être un chat. Eh bien, Monsieur Tremblay, lire votre recueil, ben, ça m'a donné la très jolie impression d'être un chat. Vous savez comment ils sont, les chats? Ils sont tranquilles, ils sont observateurs. Mais il y a certains matous qui semblent aussi philosophico-ironiques parfois. Et justement, la grande force de vos petites histoires, elle réside dans votre juste place et dans l'absolue précision de votre regard. Et je trouve que ça en fait ressortir toute l'humanité.
Merci Déborah. Laura pour la Suisse, comment s'est passée votre lecture, vous?
Eh bien, moi je trouve, à vrai dire, un peu difficile de commenter cet ouvrage. Je n'avais encore jamais lu l'un de vos livres, Michel Tremblay, honte à moi sans doute.
Ah oui,
mais il me semble que ce livre-ci nous fait passer par les coulisses de votre œuvre avec des textes forts en émotions très diverses, mais qui doivent être encore bien plus fortes pour un lecteur averti. Une chose que je peux dire quand même, moi j'ai été très surprise par votre choix d'écrire au « il » alors que vous nous racontiez clairement des anecdotes très personnelles.
Oui, c'est vrai. Pourquoi vous, tout au long du livre, Michel Tremblay, vous utilisez la troisième personne alors que vous parlez de vous? C'est impudique pour vous de dire « je ».
Habituellement, quand on décrit des personnages ou au théâtre, par exemple, on s'incarne dans les personnages. Et cette fois-là, comme c'était moi, j'ai décidé de me mettre en abîme moi-même, si vous voulez. Je suis sorti de moi et j'ai décidé de décrire ce qui se passait comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre pour me donner un peu d'objectivité, un peu de recul, un peu de distance, parce que de façon à éviter une trop grande émotivité, si vous voulez.
Oui, parce que ça peut paraître pour prétentieux, pour le coup. C'est un peu César, quoi.
Oui, 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 absolument.
Non, mais c'est vrai.
Mais je pense que c'est, j'avais besoin de le faire une fois dans ma vie parce que je dis toujours que je gagne ma vie avec ma mémoire. J'ai beaucoup parlé de mon enfance, de mon adolescence dans mes livres, mais cette fois, je voulais le raconter comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre et ça m'aidait, moi, à écrire les textes. En fait.
Un écrivain a le droit de tout faire, d'utiliser n'importe quelle forme. De toute façon, vous y êtes, c'est-à-dire c'est un livre rempli de gens. Et rempli de livres. On parle beaucoup de livres dans ce livre et on parle beaucoup de gens et c'est tout à fait la marque Michel Tremblay.
Et puis on parle surtout d'une autre histoire qui vous est arrivée. Un jour, on vous appelle pour prévenir qu'on a l'intention de vous remettre l'Ordre National du Québec, la plus haute distinction. Mais il y a l'archevêque du diocèse qui vote contre vous, sauf que normalement, il n'y a pas de raison que vous passiez à côté, mais il va appeler le Premier ministre pour lui dire « je ne suis pas d'accord » et il va avoir gain de cause.
Oui, le premier ministre, le lendemain matin, va user de son droit de veto pour rayer mon nom de la liste. Et cette année-là, je n'ai pas eu... Mais il y a un juste retour des choses, c'est l'année suivante, le premier ministre en question était à l'hôpital, il était malade, et les gens qui donnaient le prix, la médaille, ont décidé de faire passer mon nom pendant qu'il était à l'hôpital.
Mais non.
Et je l'ai eu, et...
Vous l'avez
juste dit? Retour des choses, c'est encore plus drôle. Quand la médaille m'a été remise, c'était la première manifestation publique de ce premier ministre-là à la sortie de son hôpital, de sa chambre d'hôpital. Alors, il a été obligé, lui, de me donner la médaille alors qu'il me l'avait refusée l'année précédente. Alors, c'est une très jolie histoire.
Puis, j'en il a eu le temps
fier.
De réfléchir. J'en
suis très fier. Pardon, Daniel.
Il a eu le temps de réfléchir aussi sur un lit d'hôpital. On ne peut pas refuser au grand écrivain Michel Tremblay une médaille.
Ben oui, je suppose que la religion plus la politique font que oui, tout est possible pour eux.
Ça fait pas bon ménage parfois.
Oui,
c'est ça
comme
que vous
quoi
dire.
La religion et la politique n'étaient pas et ne sont pas encore séparés au Québec, alors qu'on dit qu'on est un pays laïque.
Merci beaucoup, Michel Tremblay.
Merci.
Michel Tremblay, mesdames et messieurs, ici à Montréal, au Salon du Livre, avec ce livre que je vous montre. Vous me l'avez piqué, Dany. On co-anime, donnez-moi le livre. 23 secrets bien gardés, je le montre au public, est paru chez Leméac Actes Sud. Michel Tremblay, merci beaucoup. Hey. Dany Laferrière aussi, merci à vous, merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe Duel avec un extrait de Mantra.
La mélancolie.
Duel avec Mantra, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la réalisation Jacqueline Castonguet avec Steve Côté, Dominique Baudouin et Pierre Dulong, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction et la coordination ici à Montréal, Jean-Philippe Véret qui m'accompagne sur toutes les émissions depuis 10 ans maintenant. C'est un anniversaire et je salue devant vous son grand professionnalisme et toute sa loyauté. Merci à lui. Merci au public de Montréal et dans l'équipe d'Annie.
Christophe Magère en France, Annie Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Milkis avec Valérie Elput en Belgique, Sylvie Julien et Elsa Pépin au Canada.
Vous êtes formidables. La semaine prochaine, autre événement de Montréal, nous irons à Paris pour Radio France Fête le Livre en public devant 200 lycéens avec entre autres Amélie Nothomb et Alexandre Jardin. C'était la librairie francophone à Montréal présentée par Dany Laferrière
et Emmanuel Kira.
Merci au public de Montréal. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon week-end à tous.